Les Gones.
Une émission sur Lyon.
Présentée par Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour et bienvenue chez Les Gones. Et c'est le 10e numéro, ça se fête.
Joyeux non-anniversaire à moi.
À qui?
À moi.
À vous.
Un joyeux non-anniversaire à vous.
À moi?
Mais oui.
À moi.
Buvons du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire, mon cher.
Bon alors, anniversaire ou pas, on ne change rien. Pendant une heure, on parle de Lyon, actu, sortie, association. En fin d'émission, c'est France Alzheimer Rhône que nous recevons. C'est à découvrir tout à l'heure.
Aucun rapport, mais je suis le seul à trouver que le Chapelier Fou a la même voix que Stéphane Bern, ou c'était... Non, en vrai.
Oui, et il commence. Et pour passer une heure avec vous, chers auditeurs, mes gones, ce sont eux. Un gone qui vient de prendre la parole. Il a déjà choisi sa robe pour le gala de l'ENS et se demande maintenant s'il met des escarpins avec son kilt. Florent.
Salut.
Alors, tu vas toujours en kilt au gala?
Bah, a priori, oui. Ça a plu l'année dernière, c'était un gros succès, j'ai eu du champagne gratuit. Je pense qu'il faut continuer à montrer ses fesses.
T'as payé du champagne grâce à ton kilt? Alors, question importante, mais je crois que tu as répondu. Comment tu portes le kilt traditionnellement, on va dire?
Bah oui, traditionnellement, oui, bien sûr.
D'accord, il n'y a pas de problème.
Il y a des traditions qui se
respectent. Quand tu te penches un peu trop pour prendre ta coupe de champagne?
Je ne me penche pas au buffet. Il est haut quand même, le buffet. En plus, je suis petit, donc il n'y a pas particulièrement besoin de me pencher. Non, ça va.
Un nain en kilt, c'est Florent. Une gonne qui, à l'approche du gala de l'ENS, j'en parlais le vendredi 30 janvier, est un peu comme la Piracanta en botanique. Elle a le buisson ardent. Bonjour Marie.
C'était donc pour ça la brioche au paraline, pour se faire pardonner. Merci Thomas.
Oh, écoute, je me suis dit, c'est le 10e numéro. Il est grand temps que nos auditeurs te connaissent sous ton
et
vrai jour, Marie.
On veut tous savoir d'ailleurs. On sent qu'il y a des trucs qu'on a ratés un peu depuis.
Les buissons, ça t'évoque quelque chose ou...
Ah, tout à fait. Beaucoup de souvenirs très personnels.
Marie, d'accord. Je te souffle. C'est Moïse. C'est Moïse.
Eh mais oui. Ah, mais elle me fait la transition. Une gonne qui, quand j'ai parlé de buisson ardent, est la seule autour de la table à avoir tout d'abord cru au fameux épisode biblique rapporté dans l'Exode 3.2.
Et en plus, je l'ai lu hier. C'est fou ça.
Marie-Ève.
Bonjour Thomas.
Marie-Ève.
Ça va,
alors,
merci.
Alors, tu lis de l'Exode comme ça pour
tout
te coucher?
Tout à fait. En groupe en plus.
En groupe. Mais faites ce que vous voulez en groupe.
Le buisson ardent en groupe. Donc, c'est très très intéressant. Mais ce qui est bien, c'est que tu es la seule à ne vraiment pas voir le mal là-dedans. Moi, ça m'impressionne. Voilà.
Enfin, une gonne dangereuse. Après son premier passage dans les gones et la photo d'illustration, elle a provoqué la saturation de notre boîte mail redaction@transistor.fr sous les courriels désespérés de fans qui n'en pouvaient plus. Après son plan sorti, elle a provoqué une émeute à l'auditorium de Lyon. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose de continuer à t'inviter, Mathilde.
Non, mais d'ailleurs,
bonjour.
J'ai pensé que pour organiser les choses de façon un petit peu plus structurée, on pourrait quand même organiser un jeu concours pour désigner l'auditeur qui aura le droit de m'accompagner à mon plan sorti. Parce
on va faire ça, je pense.
Celui qui perdrait ira avec Marie-Ève à la soirée lecture.
Et j'ai appris avec effroi, Mathilde, que tu aurais pu ne jamais aller au gala, tu aurais pu ne jamais te mettre derrière ce micro et me tenir la main tendrement pendant toute l'émission. T'es une rescapée, en fait, sauvée des eaux, un peu comme Moïse, c'est
exactement,
ça?
Exactement, comme Moïse.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous.
J'ai vécu un tragique incident à l'été de mes 17 ans. Oui, tout à fait. En fait, afin d'éviter la foule de mes admirateurs sur la plage un été, j'ai décidé d'aller me baigner dans l'endroit le plus reculé, le plus isolé de la plage. Alerté par un petit panneau interdit de se baigner.
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Parce qu'il y avait une baïne, figurez-vous.
Une baïne.
Oui, parce que je me baigne sur les plages de mon sud-ouest natal.
Notez, chers auditeurs, sud-ouest, l'été, Mathilde.
Voilà, je donne pas trop d'informations sur la plage en question pour, encore une fois...
La cano.
Et sinon, essayons d'ail aussi.
C'est bizarre parce que mes grands-parents ont une maison de vacances à la Canoë.
Très intéressant,
merci Marie-Ève.
Et donc, tu te baignes dans la baïne et tout d'un coup, aspiré par les profondeurs.
Voilà, exactement. Je manque de me noyer. Je me débat avec les flots pendant une bonne demi-heure. Jusqu'à ce qu'un beau maître nageur...
Ah, le maître nageur qui arrive
vers moi, Dérapage contrôlé en jet ski.
Ah bah oui, forcément, oui.
En jet ski.
Tout à fait. Wow. Alors, il m'aide à me hisser encore dégoulinante sur le jet ski en question.
Ouais.
M'amène au large.
Vous voyez la scène, chers auditeurs.
Afin qu'un hélicoptère de secours.
Vienne me rapporter sur
la plage.
D'accord, et là, la foule de tes admirateurs.
Oui, la foule était réunie. C'est vrai. Je prenais des photos, j'ai des photos souvenirs, tout à fait.
T'as des photos souvenirs d'être...
Mais en fait, le sauveteur, c'était Thomas. Et la condition pour qu'il te ramène sur la plage, c'était que tu fasses partie de l'émission.
Ouais,
c'est
tu comprends enfin comment j'ai pu accepter.
Voilà, c'est cela. Bon, allez, pour clore les présentations, citons deux autres gones. Romain pour le sport et Tatiana que l'on embrasse. Mais il est temps de faire des gonneries. L'actualité nous appelle. Actu, donc, on va jouer avec l'information locale. Marie va vous instruire sur l'histoire de Lyon. Marie-Ève parlera sport après ses révisions bibliques de la veille. Mais avant de plonger dans Lyon, Florent et puis Mathilde, pour la première fois, vont se grimer et vous proposer le point de vue de Degonne sur l'actualité nationale. Et alors pour une fois, nos deux invités sont de vrais journalistes qui travaillent sur une radio concurrente. D'abord Emmanuel Bouchard.
C'est juste Manu.
Manu donc. Et Christina, mais alors j'ai pas sur ma fiche votre nom de famille. Christina comment ?
Christina avec un K. Avec un K.
Oui, d'accord, parfait, Christina.
Alors Thomas, on fait d'habitude de la radio dite de divertissement. Mais après les événements de la semaine dernière, on s'est rendu compte que l'info était en péril. Qu'il fallait qu'on fasse notre part pour sauver la liberté d'expression.
Ah bah oui, je comprends bien. Oui.
Les tragiques événements.
Tout à fait, Manu, les tragiques événements. Je laisse d'abord la parole à Manu pour l'actualité sérieuse. Mais ne vous inquiétez pas, je le surveille.
Alors, revue de presse pour commencer. Beaucoup de presse dans vos kiosques ce matin, à commencer par les hebdomadaires, comme toutes les semaines, qui sont très concernés par l'actualité.
On rappelle que quand même, des gens sont morts pour qu'on ait le droit de le dire.
C'est la liberté d'expression,
Christina. Tout à fait, Manu, la liberté d'expression.
Alors Christina, on commence en mettant les chapeaux de roue avant les bœufs, avec la une de Valeurs Actuelles qui prend le taureau par les cornes et s'attaque au problème à bras le corps, comme on dit.
Oui.
Une au titre tapageur. Pas d'amalgame, mais quand même, avec le témoignage poignant de Philippe Tesson en première page, dont le titre « J'ai d'ailleurs un très bon ami arabe qui est aussi musulman » dit toute la profondeur du problème.
Oui, d'ailleurs Manu, je souhaiterais profiter de cette émission pour saluer mon ami arabe, Nadia. Nadia, si tu nous écoutes, j'adore ton café. D'ailleurs, pour toi et tous les tiens, je voulais signaler le très beau livre de Valérie Trier-Valeur, une femme libre que je respecte avant tout, et dont l'ouvrage qui sort cette semaine est un cri d'amour à la France black, blanc, beurre. Avec un titre qui nous rappelle tout ce que la France doit à sa population d'origine immigrée. Merci pour ce couscous.
Un très beau livre, effectivement. Alors, amalgame toujours, je viens de voir sur notre compte Twitter la réaction d'Yvan Rioufol, qui s'indigne de la une de Valeurs Actuelles. Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro,
d'accord,
qui s'indigne de la une de Valeurs Actuelles en disant « Et les Noirs, alors ?»
Tout à fait, Manu. D'ailleurs, nous n'oublions pas nos amis du service entretien.
Beau sujet toujours dans Le Point, sur le raid en prise directe avec l'actualité. Raid comme un grand maître, la franc-maçonnerie et la police nationale, avec cette révélation choquante, Christina. 68% des policiers penseraient que le Grand Orient de France est un groupe djihadiste.
Encore un dangereux amalgame, Manu.
Vous l'avez dit, ma chère.
Violence toujours, et enfin une bonne nouvelle avec ce message d'espoir de Pôle emploi. Lutter contre le terrorisme et le chômage, c'est possible. Les 2680 postes créés pour lutter contre l'islamisme seront donnés en priorité aux licenciés de la Poste et de la haute fonction publique.
Et oui, Christina, alors une décision qui s'explique ainsi. On va entre autres recycler les candidats PS des prochaines élections locales, qui sont ainsi assurés de retrouver du travail, tout comme les postiers. Et on envisage déjà de les envoyer directement en Syrie, auprès de Daesh, en agent double, afin d'handicaper le groupe terroriste avec le savoir-faire de l'administration française.
Et pour finir sur une touche de légèreté, pour vous mesdames, pour qui la troisième démarque tourne au cauchemar en ce lendemain de fête...
C'est bien vrai ça, Christina, c'est toujours les grandes tailles qui partent en premier.
C'est vrai, Manu. Plus de problème avec la méthode Slim Fast de Nicolas S. L'auteur nous prie de signaler qu'il en a envoyé gratuitement un exemplaire à l'Élysée et un à Bercy pour, dit-il, dégraisser la fonction publique.
Un très beau livre donc. Dernière minute toujours, on me signale qu'une équipe de spéléologues amateurs vient de retrouver le clitoris de Christine Boutin porté disparu depuis l'automne 1976. Canular ou réalité, il convient de rester prudent face à une telle nouvelle. Des tests ADN sont actuellement en cours.
C'est sur cette bonne nouvelle que nous vous laissons. Et merci à Thomas et à toute l'équipe dont on est heureux de vous avoir apporté une touche d'actualité sans prise de tête dans un moment dont on en a bien besoin.
Merci à vous Emmanuel alias Florent et Christina alias Mathilde pour
cette juste
page
Manu, hein, juste Manu.
Éclairante. Bon, c'était le baptême du feu hein, pour Mathilde, mais vraiment, alors, historienne, chroniqueuse, et même actrice maintenant.
Et j'ai ri.
Mais tu as tous les talents. Comment tu fais? C'est quoi ton secret?
L'actrice sur les yeux, les oreilles aussi.
En plus, l'actrice, mais oh, arrêtez d'en jeter comme ça, c'est fou. Bon, allez, temps de jouer un petit peu, chère Gone, avec l'actualité locale. Et cette première question, à voir si elle est aussi très bonne devineuse de bonnes réponses. Qu'est-ce qui était Big du 24 au 28 janvier dernier à Lyon?
Mais c'est de la triche, Marie le sait, ça.
Moi aussi.
Fait tout le temps des biennales, j'ai remarqué. Il y en a en permanence, et des biennales de danse, et des biennales de musique, et des biennales de tout ce que tu veux. Il y a aussi des biennales de gastronomie.
Et oui.
Et de plateaux de fromage.
International du goût.
Non, et je n'étais pas au courant, mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pas au courant, ils ont fait le concours de la plus grosse dégustation de salade de fruits.
On a des chroniqueurs en mousse ici. La chroniqueuse gastronomie des Gones n'était pas au courant que du 24 au 28 janvier, c'était la biennale internationale national du goût.
Non mais maintenant je suis à Paris la moitié de la semaine, alors tu comprends.
Oh ma job
est
Paris.
Elle est jet lag.
Ah, tout à fait. Alors tu n'as pas du tout vu les affiches avec Paul Bocuse, avec sa
toque. Avec écrit Big à côté de ses grosses bajoues, c'est quand même pas fun. Enfin c'est pas cool pour lui, tu vois. C'est quand même, c'est vilain. Voilà.
L'événement de la Big, hein, c'était dans le tunnel mode doux de la Croix-Rousse, 1,7 km de parcours gourmand, dans ce qui est le plus grand tunnel d'Europe, avec au programme des dégustations, des ateliers culinaires, et notamment ce qui t'aurait fait plaisir, hein, Marie-Ève, le plus grand plateau de fromage du monde.
Je regrette d'avoir manqué ça, vraiment.
Et la soupe de Monsieur Paul.
Mais je crois qu'à l'origine, le tunnel devait être entièrement rempli de fourme d'Ambert pour faire la dégustation gourmande en avançant progressivement, mais ça a été annulé comme idée. Voilà,
oui, les gens seraient morts d'asphyxie avant d'atteindre la fin du tunnel, c'est ça, c'est le plus long d'Europe, de maladie.
C'était affreux, c'était...
Ben, c'est sympa comme manifestation, et puis bon, ça s'impose un peu, Lyon, capitale de la gastronomie.
Alors, et de l'échangisme. Non mais parce qu'à chaque fois, on oublie de préciser le deuxième terme. Quoi.
Et tu es là pour le rappeler à chaque fois,
mais
c'est
alors, du coup,
pour ça que je t'ai engagé.
Ils ont
hein.
réutilisé toute la fourme d'Ambert dans les clubs échangistes cette semaine qui ont connu une chute de fréquentation à la fin. Je dis ça parce que je m'informe.
Le lubrifiant à la fourme d'Ambert, ça doit être pas mal. Ouais. Bon alors, pour ma part, je suis fan absolu
de la fourme d'Ambert.
Du boudin noir aux pommes. Sans transition avec les crèmes échangistes. Autour de la table, Marie, Mathilde, plutôt Mathilde. On a envie de savoir.
Ok, ta gueule, Marie, d'accord, très bien. Je te
c'est
soutiens,
une violence jaloux, aujourd'hui. Une violence.
On va faire un petit tour de table gastronomique. Mathilde, qu'est-ce que tu aimes? Toi, on a tous envie de savoir. Est-ce qu'il y a ta préférence
Gastronomie lyonnaise?
Oui, parce
bah,
que.
Du coup, pas grand-chose, mais. La soupe à l'oignon, oui. La soupe à l'oignon,
tu es végétalienne, vrai. Alors forcément, la cuisine lyonnaise.
Bah, oui, mais ça laisse très peu de choix. Mais
mais la soupe à l'oignon, du coup, ça te
plaît. Ah oui, du coup, c'est génial parce que.
La salade lyonnaise sans lardons et sans œufs, qui est aussi voilà, un grand classique.
Ce qui s'appelle un repas d'escargot, en fait. Donc, en fait, quand je vais dans un bouchon pour accompagner mes proches, j'ai une excuse pour me gaver de soupe à l'oignon toute la soirée.
Ah, c'est pas mal ça. Alors, Marie-Ève, toi, ça doit être difficile de choisir parmi toute la gastronomie lyonnaise, toi qui es chroniqueuse gastronomique. Ça doit être difficile de choisir un plat comme ça à préférer.
De toute manière, quand j'ai du mal à choisir, c'est toujours sur le fromage que je me rabats. Donc,
Tu manges que du fromage dans les bouchons?
Ah, j'en serais capable. Oui.
Ah, t'en serais capable. Ouais. Bon, alors toi, Florent,
gastronomie lyonnaise. Moi, j'adore le gratin d'andouillette. Voilà, c'est un truc. Je trouve que ça me représente pas mal. C'est à la fois léger, sympathique, enfin, quelque chose. Réconfortant, tu vois, qui est vraiment.
Bon, alors, Marie, à part la tarte aux pralines ou les brioches aux praline. Qu'est-ce que tu aimes dans la gastronomie lyonnaise?
J'aime particulièrement les quenelles au brochet, oui. Sans rapport aucun avec les clubs d'échangisme, Florent.
J'ai rien dit.
Marie, je te l'ai laissé spécialement parce que moi aussi j'aime beaucoup la quenelle au brochet, mais je savais que tu avais aussi
voulu laisser la black salas aussi, tu vois.
Bon, et si je voulais terminer par toi, c'est parce que dans mon script, après, il est marqué « Puisque tu viens de prendre la parole, Marie !» Garde-la, mais enlève ta bavette et oublie les bouchons lyonnais, il est temps de parler histoire.
Ce matin, je me suis réveillée en me disant que c'était fini. Depuis, je ne suis que larmes et tristesse. Je mouille autant de mouchoirs qu'un ado devant un film pour adultes. Bref, j'ai fini de vous parler du Moyen-Âge à Lyon. Mais la Renaissance, c'est bien aussi. Je vous ai dit qu'on faisait de la soie et des livres. Bah, François Ier, il fait les guerres d'Italie. 1515, Marignan, toutes ces conneries. Du coup, il est tout le temps barré à Lyon, la cour vient avec lui. Tellement qu'il songe à en faire sa capitale. Allez Paris le Louvre, prends-toi ça dans la gueule. Et en fait, non. François rentre en Île-de-France. On n'est encore pas sorti de la macrocéphalie. Mais à Lyon, la population double en un siècle. En 1550, on passe la barre des 50 000 habitants. Je vous entends déjà dire, ils ont copulé comme des petits lapins. En fait, oui et non, Lyon accueille l'immigration. J'ai vu que les mecs venaient vraiment de super loin. Ouais, enfin, ils viennent de Bourgogne, de Savoie et du Dauphiné. On rigole
c'est
pas.
C'est loin à l'époque, c'est loin à l'époque.
On ne rigole pas. La Savoie au XVIe siècle, c'est pas en France, c'est un pays étranger.
En plus.
Il y a aussi beaucoup de canuts. En gros, ce sont les ouvriers de la soie qui échappent au corps de métier et à la législation du travail. Pour leurs ateliers, ils ont besoin de bâtiments avec 4 mètres de hauteur sous plafond. Ça fait plein de jolies constructions Renaissance. En tout cas, la ville se densifie, mais elle s'étale pas. Les gens sont concentrés dans le Vieux Lyon et sur la Presqu'île, autour de la rue Mercière. Vous vous souvenez que j'ai une pote et qu'on l'appelle la pédanterie. Elle vous précise que la rue Mercière vient de Via Mercata, rue marchande en latin. Vous pouvez lui dire merci.
Merci.
Mais tout ça, on s'en branle. Histoire de changer, il y a toujours une grosse densité de clercs à Lyon. Le reste de la presqu'île, c'est eux qui l'occupent. J'ai vu les cartes, je trouve que ça ressemble un peu à leur petit paradis. Il y a des églises, des couvents, Florent, arrête de me faire des grimaces, des vergers, des prairies, des marécages et des îles. Bref, Confluence, c'est champêtre. Les bourgeois, eux, achètent plutôt à Vaise et dans l'ouest lyonnais et ils font de l'élevage. Ouais, on a les paradis qu'on peut. Niveau humanisme, Lyon n'est pas à la ramasse. Je vous ai parlé de l'école lyonnaise de poésie.
Oui, déjà, oui. Des gugus, je suis, hein. C'est bien. Hein.
C'est bien, je suis sûr de toi.
Il révise mes machins.
Je révise à chaque fois. Tiens, au courant.
Il a des fiches d'ailleurs, je l'ai vu. Je l'ai toujours avec.
Tellement, oui.
Des gugus rassemblent des collections d'archéologie et d'épigraphie. Des mécènes excitent la verve musicale. Surtout, on a inventé le collège de la Trinité. Là, on enseigne les connaissances du temps aux jeunes de l'élite lyonnaise. Spéciale dédicace à l'IFE et aux suites Buisson, si vous nous écoutez. Moi, j'arrête là. L'histoire de l'éducation, ça me donne de l'eczéma.
Il ne nous écoute pas.
Qu'est-ce que tu en sais ? Au XVIe siècle, les banquiers de Lyon restent puissants. Ils constituent le grand parti, les rois et les cardinaux leur font souvent des emprunts. On compte des Italiens comme Strozzi et des Allemands comme Hans Kleberger de Nuremberg. Hartung, bicyclette, clé à molette et surtout crise financière à la fin du règne d'Henri II. Le grand parti se casse la gueule. On va se faire troncher, les foires chutent, l'activité bancaire baisse. Bientôt, les Lyonnais se prennent les guerres de religion dans la gueule. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.
Bon, allez, retour au présent et on continue de jouer avec l'actualité locale. Et attention, information capitale. Il s'agit d'une de ces infos qui va vous hanter, chers auditeurs, pendant des semaines. Vous voyez le genre, un gros dossier, pire que les attentats des 7 et 9 janvier dernier, pire que Boko Haram au Nigeria, pire que le projet du Bureau des Arts à l'ENS de Lyon, qui annulait son concert à Lyon, prévu initialement le 21 janvier 2015.
Youtube.
Ce n'est pas Youtube. Bien faire un compte.
Est-ce que Dieudonné devait être de passage? Non, c'est pas ça.
C'est pas, il fait pas des concerts. C'est pas des concerts.
Et ça, ce serait pas une catastrophe. C'est quel genre de musique?
Mais en fait, la vraie information, c'est que le chanteur en question fasse encore des concerts.
Il est assez vieux, c'est ça?
Il est assez vieux, oui, c'est ça. Ouais.
Bob Dylan.
Bob Dylan, non, c'est pas lui. Ça aurait pu.
Moi, je sens plutôt un chanteur français un peu ringard.
Oui, complètement. Alors, c'est pas Johnny, non?
Charles Aznavour.
Non. Alors, c'est un des plus grands poètes français. Hein,
qui Michel Houellebecq.
Il a annulé son concert qui était prévu le mercredi 21 janvier dernier. Et on lui doit des chansons comme « Aime-moi, je t'aime » en 1986. « Aïe, 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 je t'aime » en 1989. « Aimez-vous les uns les autres »
Jésus, putain, c'est Jésus.
L'amour de la famille en 78. L'amour n'est jamais fini en 79.
Non, mais c'est Jésus. Ou Christine Boutin. Enfin, l'amour de la famille et aimez-vous les uns les autres.
Qui est ce chanteur, hein, vous l'avez compris, résolument punk, qui a annulé son concert lyonnais la semaine dernière?
Alors là.
Alors peut-être qu'avec un petit indice, une chanson du tout début de sa carrière, c'est évidemment pas un de ses tubes, sinon ça serait trop facile. Il a pas tout à fait. Enfin, la voix est encore jeune, mais la chanson m'a fait vraiment mourir de rire.
Quand on est très malheureux, pourquoi pleurer sur son sort? Il vaut mieux pour le moral chanter d'abord. Chanter quand je suis bien, chanter quand je n'ai rien, chanter sur tous les toits, chanter à pleine voix, et chanter sous la pluie, chanter quand je m'ennuie, chanter du bon moment de ma vie.
Mathilde, une idée parce que...
Mais non, mais tu sais, à Transistor, nous, l'amour, c'est pas trop notre truc. Mais
alors moi, je lance un appel...
Ah bon, mais je te pensais déesse de l'amour autour de la table. Je ne comprends pas, Mathilde.
Moi, je lance un appel national. Là. Non, mais c'est 6 virgules musicales, ces indices musicaux.
Oui, c'est plus possible.
Thomas,
c'est
et plus vous avez aussi une culture. Bon, alors, si je
vous dis... stupéfiant mariachi, faut arrêter à
le
chaque fois.
Le mendiant de l'amour, enfant de tout pays, les filles de mon pays, normalement, en cœur, donnez, donnez, vous devez me répondre. Bande d'incultes.
Tu retrouves pas le nom? Tu l'as sur le bout de la langue? T'as l'amour sur le bout de la langue, c'est dégueulasse. Vraiment, Marie-Ève est dégueulasse. Tout le temps. Tout le temps. Elle arrête pas, Thomas.
Mais enfin, c'est Enrico Macias. Vous connaissez Enrico Macias quand même, non?
Oh, je pensais qu'il était mort, moi.
Mais moi aussi.
J'ai même chanté de ses chansons au collège. Honte à moi.
Oui. Raconte-nous quelle chanson, Marie-Ève. Tu as un souvenir ému de cette chanson du collège?
Non, surtout que quand je chantais, je fermais les yeux et je faisais plein de mouvements, comme aujourd'hui encore. Et donc tout le monde se foutait de moi.
Effectivement, ça
mais
continue.
Attends, mais j'ai une
encore
question. Son cœur de cible doit avoir pas loin de 65 ans actuellement.
Bah, c'est pour ça qu'il profite de sa dernière tournée, parce que les fans, après, il n'y en aura plus. Hein.
Bah, c'est ça, les midinettes des années 70, elles commencent à genre. Bon, voilà quoi. C'est sur la fin.
Dernière question sur cette Enrico Macias. Quel est le point commun justement entre Enrico Macias et la chronique sportive de Romain?
Ça sent la mouette.
Non, il n'y en a pas.
Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sponsorisés par le club des Pharaons. Saura-t-on enfin ce qu'est ce club? Ainsi, Thomas, dès que tu passes ton badge d'abonné dans la porte d'entrée, il me, c'est-à-dire à Romain, verse automatiquement de l'argent et je, c'est-à-dire Romain, dois les citer.
Je ne vois pas du tout de quoi parle Romain. Hein.
Je, donc Romain, n'a rien contre la malhonnêteté. Vous le connaissez, mais l'argent de la prostitution SM lyonnaise quand même.
Allez, enchaîne, vas-y.
Bref, football avec l'OL féminin et une victoire 14-0 contre Albi.
C'est fou. Hein,
ouais. On va éviter les commentaires, si ce n'est bravo mesdames.
Oui, bravo mesdames, oui.
Bravo messieurs également, et oui, comme ça tout le monde est content.
Mais oui.
Je ne blague pas, bravo, oui, les joueurs oui. de l'OL avec bravo. Leur confortable place de leader. C'est un hold-up, non? Qui aurait pu croire qu'une équipe ayant perdu 2-0 contre Lens au début de la saison et avec la plupart de ses joueurs à l'infirmerie pourrait être première? Alors vous me direz bien qu'il y a Jordan Ferry ou Alexandre Lacazette.
Oui.
Respect Marie-Ève, merci Romain pour la dédicace. Mais tout de même, ça fait du bien de voir qu'en France, il y a encore des choses inattendues. Marine Le Pen se mariera-t-elle avec Magloire? Ah, les bonnes vieilles habitudes. Mauvaise saison à l'ASVEL, un des plus gros budgets de la Pro A et aussi un des plus gros fiascos.
Oui.
Alors qu'on
oui.
voit que le Havre, avec le plus petit budget, réussit à se qualifier pour la Leaders Cup qui se tiendra
oui,
comme tous
oui.
les ans, qui se tiendra comme tous les ans à Disney, rassemblant les 8 meilleures équipes du championnat, ce n'est pas pour tout de suite que les Verts diront bonjour à Mickey. Mickey.
Mickey
oh bon.
Mais en fait, je viens de réaliser que maintenant, il y a deux Havrais très célèbres. Il y a bien sûr Laurent Ruquier, mais il y a Marie Lécuyer surtout.
Oui, oui, oui. Donc ça a dû te parler.
Il ne faudrait pas interrompre Marie-Ève, parce que déjà, elle ne sait pas dire Mickey. Je pense que si on la coupe, ça ne va vraiment pas l'aider. Enfin...
Bon, surtout que je vais avoir besoin de toi, Florent. Donc du très mauvais, je ne parle pas de mes imitations et de mes prononciations.
Tu pourrais.
Donc du très mauvais, on passe au médiocre. Rugby maintenant, avec une nouvelle déconvenue pour le loup. Ah ouh, cela devient traditionnel à présent. Et là, je passe la parole à Florent, qui est le grand spécialiste de rugby autour de cette table.
Bien sûr.
En effet, les Lyonnais se sont pris l'aviron bayonnais en plein dans le clapet fécal, comme on dit chez eux. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? On ne dit pas ça? Ah, personne ne dit ça, en fait. Mince. Une défaite 23-22 qui sent bon la...
Et c'est un clin d'œil un peu spécial aujourd'hui, puisque sans vanne, promis, je vais rendre hommage à David Trezeguet, qui fut un très grand attaquant. Ça, je sais le prononcer en plus, parce que Coupe du Monde 98 oblige.
Ah bah oui.
Et donc, qui a décidé de raccrocher les crampons.
Coupe du Monde 98, Trezeguet, il était souvent sur le terrain, c'est sûr.
Ah bon?
Oui. Sur le banc, oui, mais...
D'accord,
c'est là
ça je m'en souviens plus. Mais je me souviens
trop. Trezeguet en 98, elle est morte.
Elle avait un album Panini qui était dans sa ville à l'époque déjà. C'est ça qu'on ne sait pas. Sa Bible a colorié, tu sais. Collectionne les images de Moïse. Elle
ah non, c'était déjà colorié. Non, non, j'ai même pas pu colorier ma Bible en plus. Non, c'est une grande frustration. Bon, donc hommage à David Trezeguet, qui fut oui. donc un très grand attaquant et qui a décidé de raccrocher les crampons. Tout le monde se souvient, bien sûr, de ses nombreux buts à Monaco. Et surtout de son plus beau but exceptionnel en équipe de France pendant la séance de tir au but de la finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie, où il marqua et il nous apporta un autre trophée.
Ah, mais oui.
Bon, d'accord, vraiment, j'avais dit, hein. Sans vanne. C'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais vous retrouverez très vite Romain pour une nouvelle chronique sportive. Et d'ici là, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le marsupilami.
Et si on sortait, hein, chers auditeurs, pour ça, hein, vous le savez, vous connaissez l'émission, chaque gonne va vous donner ses bons plans, ses envies de sortie. Et je sais, hein, que comme moi, vous avez déjà sorti votre stylo, attrapé un papier pour noter le bon plan de Mathilde. Mais d'abord, un peu de patience. Marie-Ève vous invite en cuisine sans se prendre le chou. Mais alors, comme notre radio n'est pas filmée, vous loupez beaucoup de choses, chers auditeurs. D'abord, l'excellente imitation de flûte traversière par Florent, et puis surtout qui griffonne.
Stylo traversier, en fait, surtout.
Depuis les attentats de Charlie Hebdo, il veut se prendre caricaturiste. Il a fait un joli petit Mickey, ou Mickey, comme dit.
C'est pour montrer qui c'est, en fait. Voilà, c'est parce ça, que pour je suis pas sûr qu'elle connaisse. Voilà.
Et justement,
ça me rappelle quelques souvenirs, effectivement. Je vais avoir du mal à démarrer ma chronique maintenant, c'est après ce fou rire. Ouais. Aujourd'hui, donc, je vais anticiper un tout petit peu sur le calendrier festif et liturgique, bien sûr.
Oui.
Et je vais parler des bugnes.
Ah oui, les bugnes.
Alors non, Florent, ne te réjouis pas. Je ne vais pas t'inciter à en mettre une dans la figure d'une victime consentante. Ou non, autour de cette table.
Tu sais que c'est une bifle, ça s'appelle. Enfin, je pense que tu confonds deux trucs.
Ou alors, peut-être c'est une expression plus idiote.
Une bugne, personne. Je vais te mettre une bugne, une beigne. Enfin, je sais pas.
Elle cherche.
Je croyais que ça signifiait coup de boule, non, c'est pas ça?
Oh mon dieu. Non, vraiment pas, non.
D'accord.
Non.
Bon, alors c'est peut-être une expression plus idiomatique, je ne t'inciterai pas non plus.
Chez toi? Tu t'es pris une flamme qui s'éveille.
C'est l'accent belge, non?
Ouais, non, mais
québécois.
Ah, oui.
Bref, je ne vais pas non plus t'inciter à bugner ta future bagnole. Voilà, ça c'est peut-être plus idiomatique.
Là, ça se... Ouais, un peu plus.
Calembourge, debout, on te retrouve, Marie-Ève.
Bon, mais je sais, Florent, que tu n'en es pas une grande de bugne.
Attends, donc... là, c'est pas possible, à bout d'un moment.
Ça n'existe plus, vraiment plus, là. Là, on est parti très loin de l'idiomatique, là.
Donc, je te fais confiance pour être
Mathique,
sage.
Mathique, je sais pas, idiot aussi, ouais, c'est ce genre dedans, allez, vas-y.
Allez, les bugnes, donc, les vrais, sont une spécialité de la zone géographico-linguistique de l'Arpitan.
Ah bon?
Alors, qui comprend à l'origine le fameux duché de Savoie dont nous parlait Marie tout à l'heure?
Alors, qui comprend? On a la roubière autour de la table maintenant. Alors, qui comprend?
Et donc, actuellement, cette zone géographique comprend le Lyon, bravo. Donc, Lyon, le Dauphiné.
Elle sait même plus reconnaître le nom de la ville où elle habite depuis 4 ans. Le Lyon.
La vallée du Rhône, Saint-Étienne et la Franche-Comté même. Et oui.
Et oui. Bah oui.
On dirait que c'est Romain qui écrit aussi sa chronique. Le Lion et de Mickey. Mickey Lion.
L'Arpitan, alors, pour être sérieux, est-ce que vous savez ce que c'est? Non,
non.
Non, plus du
Désolé.
Tout. Bon. L'Arpitan, ça signifie littéralement berger ou montagnard. Et c'est un dialecte qui s'appelle aussi le franco-provençal. Alors on a encore de l'Arpitan aujourd'hui qui est même édité en livre. Je pense notamment à la BD Le Roblochon qui tue, Les Roblochons que tu vois, dans la série Fanfoué des Pnotas, illustrée par Félix Ménet et écrit par Pascal Roman, paru en 2000. Bref, vous l'aurez compris, le mot bugne est la francisation du terme bugni, féminin, baigné.
Ah, baigné, ben oui, tout simplement.
Voilà. Eh oui. À présent, parlons cuisine. Nisier du Puy-Pelu, encore lui, avoue en 1891 dans les vieilleries lyonnaises qu'il ignore la recette des bugnes.
Ah bon ?
Comment se fabriquent donc les bugnes ? L'on sait que c'est une poignée de pâtes façonnées en couronne et frites dans l'huile. Mais de quoi se compose la pâte ? Ni les unes, ni les autres n'en savent rien. Nisier du Pipelu affirme également qu'au XIXe siècle, les bugnes étaient à Lyon associées à la période du carême.
Ah bah oui.
Elles étaient mangées notamment le dimanche des Brandons. Et à partir du mercredi des Cendres, on ne pouvait plus consommer certains ingrédients, notamment le lait, les œufs et le beurre. Et donc, il fallait les utiliser avant. Et oui. Donc, on faisait des beignets.
Et ben voilà. Oui.
Et c'est aussi pourquoi je fais ma chronique sur les bugnes assez à temps pour que vous puissiez en profiter avant le début du carême.
Ah, mais tout est prévu, Marie-Ève. Alors, là...
alors me direz-vous, le dimanche des bugnes, premier dimanche du carême, c'est donc une hérésie.
Mais c'est une hérésie.
Mais non, rassurez-vous. Ah car bon. Si on fait encore des bugnes le dimanche après Mardi Gras, c'est au prix d'un changement de la recette initiale. Car à cette époque, les bugnes ne contenaient ni lait, ni beurre, ni œufs et se faisaient avec de la farine, de la levure de bière et du grain, ensemble délayé dans de l'eau, et oui, et frit dans l'huile.
C'est italien en fait.
Ah bah oui,
Mathilde vrai. Fait carême toute l'année.
Mais tout à fait, c'est des bugnes pour Mathilde.
Du coup, je comprends pas si c'est une allusion ou pas, parce que vu que je sais pas ce que tu veux dire par bugne dans une expression figurée, est-ce que des bugnes.
Non, là c'était les beignets pour Mathilde. Voilà. Il n'empêche, je cite toujours ce cher Nisier du Pipelu, les guirlandes, c'est-à-dire de bugnes lors du dimanche des bugnes, suspendues en plein vent, envoyaient au nez des passants leurs effluves appétissants. Leurs couleurs dorées, chaudes, éveillaient la concupiscence. Et si dans le paradis terrestre, l'arbre dont Ève cueillit la pomme eût porté des bugnes, ce n'est pas un seul jour, une heure d'innocence qu'eussent compté nos premiers parents.
Ah oui, à ce point-là, oui.
Alors après, il évoque un certain Louis Sieur des Guénardes, qui les mentionne comme un agrément des Vogues. La Vogue, donc encore une tradition lyonnaise, est une fête foraine traditionnelle et surtout un grand rendez-vous de la Croix-Rousse.
Ah,
vous connaissez
d'accord.
sûrement la Vogue des Marrons. Ouais. Exactement.
Ah, mais oui.
À ne pas confondre avec la Vogue des Marrons. Donc la Vogue des Marrons se tient au début de l'automne sur les pentes de cette fameuse colline lyonnaise. On y déguste les premiers marrons de l'année et aussi le premier vin blanc, très important, et puis surtout des bugnes.
Ça c'est super, c'est une bonne tradition.
Louis Sieur des Guénardes dit « Des vapeurs huileuses qui vous prennent de poumons annoncent une cuisine de bugnes en plein vent. Le mince anneau de pâte, un peu plus grand qu'une bague jetée dans la friture, se gonfle encore et devient une grosse bugne dorée et craquante. » On trouve donc, pour terminer, deux types de bugnes. Premièrement, les lyonnaises, qui sont jaunes, plates et croustillantes.
Oui.
Elles sont cuites dans une huile très chaude et la pâte est très fine. Ce sont les bugnes de carême.
Ah,
et les bugnes stéphanoises, attention, les gens de Saint-Étienne, hein, sont plus rouges et plus moelleuses. Elles sont réalisées à partir d'une pâte plus épaisse. Voilà. En tout cas, si vous voulez que la période des bugnes...
On sait vivre à Saint-Étienne, ah oui.
En tout cas, si vous voulez que la période des bugnes se prolonge, vous pouvez toujours chanter la comptine suivante. Mardi gras, ne t'en va pas, il y a des bugnes, il y a des bugnes. Mardi gras, ne t'en va pas, il y a des bugnes, t'en auras pas.
Gérer toutes ces histoires de bugnes. On va sortir, chers auditeurs. Mais où ça ? Eh bien, Florent, t'as peut-être un petit conseil sorti pour nos auditeurs.
Alors non, pas grand-chose. Justement, j'ai décidé de travailler, donc je sors plus.
Tu sors plus, tu te mets en mode moine, oui. Bon, ouais. D'accord. Et Mathilde, alors toi qui affole nos auditeurs.
Alors déjà, les modalités du jeu concours pour être l'auditeur qui m'accompagnera à ma sortie du
week-end. Faut être précis.
Alors vous pouvez envoyer une photo de vous-même à l'adresse de la rédaction Transistor.
De préférence
Voilà. Les photos ne seront pas tirées au sort, elles sont sélectionnées par ma personne.
Voilà.
Voilà. Et vous pourrez m'accompagner alors.
Alors déjà... quels sont les critères qu'on sache un peu ? Est-ce que, comme certaines personnes normands à la radio, tu aimes particulièrement les barbes ?
Elle aime particulièrement ce qui ressemble à un légume.
Exactement.
Donc, tout ce qui est une tête d'endive, d'asperge,
si vous posez nu avec une carotte, franchement, ça peut marcher.
Très bien.
Alors déjà, je vous informe que chez Transistor, on est des grands amateurs de Star Wars.
C'est vrai.
Marie, notre présidente, s'est improvisée reine Amidala. Et tandis que
on
Thomas
m'a improvisé reine Amidala, plus exactement.
Thomas se prend pour l'empereur Palpatine.
Bah,
un peu
que non, le début. Il voulait un truc comme ça qui claque un peu, mais il a dû se contenter du rôle de R2-D2. Est-ce que c'est pas vrai, Thomas?
R2-D2.
Alors, pour préparer la sortie du 7e volet, voilà, qui sortira en 2015, pourquoi ce week-end ne pas se rendre à la Star Wars Identities ? C'est une exposition qui se tient à la Sucrière.
Oh, c'est pas mal,
pour
ça.
Pour vous replonger dans l'univers de cette saga intergalactique.
Très bonne idée !
Exactement.
Est-ce que, puisque la reine Amidala est parmi nous, est-ce qu'elle ira à cette Star Wars Identity, c'est ça, hein ?
Oui, mais seulement si j'ai une doublure pour me protéger, comme la reine Amidala. Et ma doublure, c'est Mathilde, tu vois,
oui,
parce qu'elle est brune. Je suis blonde, je pense que ça va le faire parfaitement.
Oui, dans l'ombre de la présidente.
Un conseil sorti peut-être ?
Un conseil cinématographique aussi, un film que j'ai envie d'aller voir en ce moment, que j'irai certainement voir au Comédia, parce qu'il faut rattacher ce plan sorti à Lyon, et qui s'appelle Whiplash, qui porte sur la relation empoisonnée entre un jeune batteur de jazz et son professeur, et la photographie elle est magnifique, je pense que j'irai voir ça. Oui.
Ça a l'air effectivement très bien, regardez la bande-annonce, ça donne envie. Marie-Ève, tu t'es remis de ta chronique sur les bugnes, est-ce que tu veux sortir dans un restaurant ou... Non, c'est trop le boulot, ça te rappelle trop ça.
J'ai été invitée à un concert auquel je vais aller, donc je vous invite aussi, seulement je ne sais malheureusement plus la date. Je sais juste encore le lieu, c'est à l'Auditorium de Lyon. Et je crois que c'est avec les chœurs de l'ENS aussi, mais je ne suis plus très sûre.
Ah, le professionnalisme de certaines personnes.
C'est tellement documenté sur les bugnes qu'après, elle n'a plus d'énergie.
J'ai l'impression qu'elle joue le rôle de quelqu'un de 76 ans, tu sais, qui a de plus en plus de mal à finir ses phrases dans toute sa chronique façon incroyable.
Elle joue un rôle.
Je vous invite à un concert qui se tient quelque part un certain jour avec des gens, voilà, mais je ne saurais vous en dire plus. Sur ce, je retourne à mon micelle.
Merci Florent. Ça me touche cet hommage, vraiment.
Avec ça, je pense que vous avez de quoi vous occuper dans Lyon, chers auditeurs. Mais si vous pouvez vous ménager un petit peu de temps dans votre planning, vous pouvez vous engager dans une association, à l'image de notre Florent, hein, qui en plus de Transistor, est engagé dans le Génépi, que nous recevions d'ailleurs lors des GON numéro 4. Allez, on redevient sérieux, l'espace d'un jingle pour vous montrer que la vie associative lyonnaise est riche. Et aujourd'hui, dans cette dernière partie de l'émission, nous recevons l'association France Alzheimer, hein, qui fête en 2015 ses 30 ans, enfin fête si on peut dire ça. Pour nous en parler, c'est Gérard Lambert, hein, secrétaire général de la section départementale du Rhône, qui a pris place derrière le micro. Bonjour Gérard.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Je vous en prie. En France, la maladie d'Alzheimer, Gérard, les maladies apparentées, hein, dégénérescence frontotemporale, démence à corps de Lévy, démence vasculaire, elles touchent près d'un million de personnes. Chaque année, c'est plus de 200 000 nouveaux cas qui sont révélés. Dans le département du Rhône, hein, c'est 25 000 personnes qui sont touchées par la maladie. France Alzheimer, elle accompagne les malades et les familles dans le cours de cette maladie. Et dans le Rhône, eh bien, qu'est-ce que ça donne pour ça? Je passe la parole à la magnifique Mathilde et au non moins séduisant Florent qui fait la gueule sinon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association?
Alors, c'est une association qui est créée...
En 1986, soit un an après la Fédération Nationale.
Avec des membres
400 adhérents et 50 bénévoles, dont 20 qui sont très actifs.
Et un budget assez important quand même.
200 000 euros.
Merci. Je rajoute un chiffre que vous n'avez pas cité, zéro. Zéro comme zéro traitement curatif pour guérir ces maladies. Zéro comme zéro traitement préventif pour les éviter. Gérard, elle en est où la recherche?
Alors, en ce qui concerne la recherche, donc, il y a plusieurs axes. Et ce que tout le monde souhaiterait, c'est d'avoir un traitement curatif.
Bien sûr.
Actuellement, donc, ce n'est pas le cas. Les seuls médicaments sont des médicaments symptomatiques, qui agissent donc sur les symptômes de la maladie, et en particulier donc au niveau des neuromédiateurs qui interviennent dans le fonctionnement du cerveau. Alors, la recherche néanmoins existe, cette recherche elle est active, et France Alzheimer donc, essaie donc avec son comité scientifique d'être une association qui puisse faire améliorer cette recherche. Et il y a plusieurs axes. D'abord, il y a un axe de compréhension de la maladie.
Oui, c'est important.
Alors, on connaît ce qui se passe dans le cerveau, entre autres pour la maladie d'Alzheimer. C'est deux protéines, la protéine amyloïde, la protéine tau.
Oui.
On ne sait pas qu'est-ce qui cause le dérèglement de ces protéines.
Et oui.
Et donc, il faut à tout prix donc, bien connaître. Et il y a donc quelques pistes. Bon, il y a des pistes sur d'autres types de cellules que l'on rencontre dans le cerveau.
Oui.
Il y a quelques autres pistes donc, de recherche fondamentale. Mais actuellement, donc, on est encore dans
cette phase de compréhension. Voilà,
oui,
vraiment de comment tout ça se déclenche. Quoi. Et ça, c'est hyper important. On ne peut pas trouver de traitement si on n'a pas compris ça.
Alors, exactement. On peut dire parmi quand même certaines pistes aussi et des axes de travail, il y a l'aspect prévenir l'apparition de la maladie.
Oui, oui.
Hein, parce que la maladie, on peut avoir des liaisons dans le cerveau sans avoir des symptômes d'ailleurs.
Bien sûr, oui.
Et les symptômes se déclenchent assez tardivement. Et plus on arrivera donc à prévenir l'apparition, si on peut dire qu'on gagne 5 ans hein, de, au niveau de l'apparition, ça permettrait d'éliminer la moitié des cas mondiaux.
Ben oui.
Donc c'est quand même une piste qui n'est peut-être pas une piste curative, mais c'est une piste extrêmement importante pour la qualité de vie. Et oui. Donc des personnes âgées.
Pour l'accompagnement, plus tôt c'est fait, mieux c'est pour la personne.
Absolument. Alors parmi les pistes les plus prometteuses, la voie des gènes. Donc il y a toute une série de recherches qui doivent permettre de détecter des gènes qui peuvent vraiment ralentir la progression de la maladie.
D'accord.
Et donc là, on a quand même quelques pistes sérieuses. Bon, avec le gène de l'enzyme, HMG-CoA, enfin bon, certaines pistes qui sont quand même déjà en stade d'élaboration, donc assez fortes.
C'est bien de voir que au niveau de la recherche, même s'il y a, on le disait, pas de traitement curatif, il y a quand même des pistes. Alors, France Alzheimer, c'est la seule association nationale de famille qui soit reconnue d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et vous avez un credo, c'est s'occuper au quotidien des personnes atteintes de la maladie, c'est épuisant. Donc, il faut ne pas rester seul face à la maladie. Ça, c'est votre créneau.
Oui.
Et pour ça, y a des groupes de parole, notamment, que vous organisez.
Alors nous, on est association de famille, on a des actions concrètes et sur le terrain qui s'adressent à la famille, soit à l'aidant. On appelle aidant la personne qui, en général, a un lien de famille. C'est le conjoint, c'est l'enfant. Et c'est cette personne qui prend en charge le malade. Donc, on a des actions spécifiques par rapport aux aidants. On a des actions spécifiques par rapport aux malades.
Et alors, un type d'action spécifique pour les aidants, c'est qu'il n'y a pas que des groupes de parole. Il y a aussi un volet formation.
Alors, nous avons un volet formation qui permet de mieux comprendre la maladie, qui permet de mieux comprendre les aides auxquelles la famille peut avoir droit, qui permet de mieux comprendre également les aspects juridiques, en termes de bon, est-ce que je dois mettre mon malade en tutelle, en curatelle, des aspects comme ça, qui permet aussi de mieux ajuster le comportement de l'aidant par rapport à la pathologie du malade. Alors vous avez cité quelques cas de maladies apparentées, donc chaque malade a des troubles de comportement qui lui sont propres, donc il faut bien les connaître pour mieux ajuster sa relation avec lui. Chaque maladie, elle a un syndrome de trouble qui est beaucoup plus profond dans une maladie que dans une autre.
Oui.
Donc il faut aussi bien savoir quelle est la maladie donc, qui atteint notre malade pour ajuster vraiment ce que j'ai dit, donc son
personnaliser,
comportement.
Personnaliser l'encadrement, l'accompagnement.
Absolument. Et donc,
alors,
ça sera important.
Vous proposez aussi, on a dit, toute cette formation qui est hyper nécessaire parce qu'on n'est pas formé à s'occuper de sa mère, sa grand-mère qu'a Alzheimer ou les maladies apparentées. On est démuni face à ça. Mais justement, quand on est démuni, on peut être épuisé aussi. Et vous, à France Alzheimer Rhône, vous proposez des solutions de répit pour justement prendre le temps de renouer un lien de partage, un lien beau entre l'aidant et la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et par exemple, il y a cette super initiative, les séjours vacances répit. Vous nous en dites quelques mots ?
Alors, ces séjours vacances répit, donc, c'est comme le nom l'indique, c'est pour prendre des vacances, donc pour couper un peu avec sa vie habituelle. Et on a donc différents types de séjours qui sont intéressants parce qu'ils permettent de couvrir une diversité donc dans les situations des familles. Alors on a un séjour détente qui s'adresse aux couples aidants aidés.
Oui.
Bon, et avec en général des malades qui ne sont pas sévèrement atteints, qui sont plutôt en stade léger voire modéré, et donc qui permettent d'avoir des activités vraiment animées par des bénévoles qui s'adressent donc à l'aidant aidé, en complément donc d'une liberté pour l'aidant aidé donc de réaliser des activités qu'il souhaite. On a également des séjours répit. Ces séjours répit, c'est un peu le style du séjour détente, mais ça s'adresse à des malades qui sont plus sévèrement touchés.
Oui.
Donc avec vraiment là, des équipes qui peuvent prendre en charge pour des activités donc
encadrées
et laisser l'aidant profiter donc de moments de répit où il peut s'occuper donc à des activités dans son cadre de ses vacances donc qui lui sont propres. On a aussi, et là c'était nouveau, c'était donc créé il y a quelques temps, donc des séjours aidants isolés.
Ah oui.
Puisque un aidant peut perdre son malade.
Mais oui.
C'est un choc énorme puisque consacrer sa vie à un malade et puis se retrouver donc sans rien. Donc et ça permet donc d'avoir des soutiens psychologiques qu'on organise et des activités en commun. Avec des gens qui sont dans cette même situation, pour pouvoir échanger, pour pouvoir essayer de créer également du lien social qui s'est délité donc, au fur et à mesure de l'avancement.
C'est très nécessaire et ce n'est pas juste à des séjours qui sont ponctuels, qui sont exceptionnels. France Alzheimer Rhône, c'est aussi des possibilités d'ateliers, d'accueil de jour pour les malades qui, eux, sont au quotidien. Il y a à Villeurbanne, il y a à Dardilly, c'est ce que vous appelez l'accueil de jour Alzheimer Club à loisirs. Oui. Ça consiste en quoi, rapidement ?
Alors, ça consiste donc à accueillir les malades qui sont à un stade, puisque nous, on s'est spécialisé plutôt dans les malades, à un stade de modéré. Hein, et les accueils de jour existent dans d'autres structures et nous travaillons avec les autres structures d'ailleurs et nous les remercions. Hein, et donc nous on s'adresse plutôt à un stade modéré parce qu'on fait des activités qui sont propres à l'État. Donc ça peut être des activités aussi qui sont sportives, ça peut être des activités donc qui sont beaucoup plus sollicitantes du point de vue donc des capacités cognitives des personnes. Alors ces accueils de jour donc accueillent le malade toute la journée. Il y a un transport aussi qui est associé parce que pour les dents, ce n'est pas toujours facile d'accompagner son malade. Il y a donc des ateliers qui s'enchaînent de manière dynamique. Alors ça peut être des ateliers d'art-thérapie, ça peut être des ateliers de dessin. Donc c'est des ateliers aussi qui concernent des jeux d'adresse, jeux de ballon.
Vous avez prononcé un mot, Gérard, je rebondis dessus, vous avez prononcé le mot thérapie. Et je crois que ça c'est très important pour vous. C'est pas de la garde,
c'est ça.
C'est vraiment à la fois du répit et la thérapie, tout ça c'est lié.
Exactement, parce que pour nous ça permet donc au travers de ces activités thérapeutiques donc, de faire en sorte d'avoir une stimulation des capacités cognitives. Donc des malades,
bien sûr.
Et éventuellement donc également de leur créer du lien social. Donc c'est au-delà du répit pour les dents, ce qui est important aussi.
Bien sûr.
Mais par contre, notre signal un peu d'alarme, c'est le fait que ces structures-là coûtent cher, il faut de l'encadrement, il faut un nombre donc à peu près d'une dizaine ou d'une douzaine de personnes. Et derrière, il ne faut pas qu'on puisse avoir des accueils de jour qui recueillent 3 personnes. Ça ne serait pas possible de faire effectivement ces activités à visée thérapeutique telles qu'on vient de les décrire.
Et c'est important de le dire.
C'est important de le dire,
bien sûr.
Absolument.
Depuis tout à l'heure, on parle de la difficulté de faire face au quotidien à la maladie d'Alzheimer. On a entendu ce que vous proposez France Alzheimer Rhône, ce que vous mettez en place pour accompagner les malades. Mais aussi, bien sûr, les familles. Vous êtes une association de familles. Mais pour essayer de vous faire comprendre, chers auditeurs, ce que ça veut dire, souffrir de la maladie d'Alzheimer, accompagner quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Et donc oui, combien des associations comme la vôtre, France Alzheimer, sont nécessaires. Je vous propose, après une petite pause musicale, signée Alain Bachung et sa chanson « Sommes-nous », un petit témoignage.
Si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait de main, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien? Je t'ai manqué.
Ça commence toujours par des petits oublis. Mais pour Janine, le plus angoissant, c'était de se rendre compte qu'elle oubliait. Tous les jours un peu plus. Qu'elle avait beau chercher, ça ne revenait pas. Ça ne reviendrait plus. Elle avait beau écrire à un consigné dans des carnets ce qu'elle faisait. On avait beau lui écrire sur des papiers, punaiser au mur juste en face d'elle ce qu'elle avait à faire. Rien n'y faisait, elle oubliait. Combien de fois l'a-t-elle lu pour la première fois ce livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame en Rose, sur la première page duquel elle avait pourtant griffonné, lu au crayon de papier ? Parfois, Janine, assise dans son fauteuil, sa loupe à la main, levait le nez de son livre et elle ne savait plus où elle était. Quel moment de la journée il était ? Pourquoi elle était toute seule et la panique montait ? Pourtant, Janine, elle était rarement seule. Elle avait la chance d'habiter chez sa fille qui, pendant les 5 années de la maladie de sa mère, a mis sa vie entre parenthèses pour s'occuper d'elle, par amour. C'est qu'il fallait aider Janine dans toutes ses actions ordinaires, pour lesquelles elle devenait de plus en plus dépendante, s'habiller, se laver, aller aux toilettes, etc. Parfois, Janine était en colère contre elle-même, de ne plus réussir à se rappeler. Cette colère, elle la reportait parfois sur ses proches, sur sa fille d'abord. C'est pas forcément facile de devenir la mère de sa mère. Ça l'est encore moins de voir sa mère devenir agressive et violente. Après les pertes de mémoire, survient une altération du langage. Quand Janine racontait sa journée, parfois des mots lui manquaient, des mots mis comme chien, volé, rideau, des mots de tous les jours. À la fin, Janine ne parlait presque plus, et pourtant dans ses yeux, croyez-moi, on pouvait voir bien des mots se bousculer. La maladie progresse et ce sont des troubles de l'orientation dans le temps, dans l'espace qui apparaissent. Ainsi qu'une difficulté à effectuer des gestes dits élaborés, c'est-à-dire tenir un stylo, décrocher le combiné du téléphone, et même des gestes devenus automatiques depuis l'enfance, marcher, déglutir. C'est aussi une impossibilité à reconnaître des personnes proches qui apparaît. Comme tous les samedis depuis un an, le petit-fils de Janine est venu avec sa mère voir sa grand-mère au Clos Fleury, la maison de retraite où elle avait fini par être placée la dernière année de sa vie. Mais ce jour-là, quand il s'est assis à côté de sa grand-mère, il a vu dans ses yeux qu'elle ne savait pas qui était ce jeune homme de 19 ans qui venait de l'embrasser, lui souriait, lui parlait. Ce jour-là, les yeux de sa grand-mère ont envoyé de lui le reflet d'un étranger et il n'oubliera jamais ce que c'est que de mourir dans les yeux de celle qu'il avait pourtant élevée. Des histoires comme celle de Janine, sa fille, son petit-fils, bon, il en existe tellement d'autres, chers auditeurs. C'est pourquoi la maladie d'Alzheimer, elle a été déclarée grande cause nationale en 2007, grâce à l'action d'ailleurs de l'association France Alzheimer, que j'avais tant de volonté de recevoir aujourd'hui. Un plan Alzheimer 2008-2012, il a été mis en place et il encourage les services de soins infirmiers à domicile. Il a créé des plateformes d'accompagnement et de répit. Il a mis en place 17 maisons de l'autonomie et de l'intégration pour les malades d'Alzheimer, les MAIA. Et il favorise aussi la création d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameux EHPAD qui sont un petit peu connus. L'action de l'État pour encadrer la maladie d'Alzheimer, Gérard, elle est suffisante, vous trouvez ?
Alors, il y a eu plusieurs plans Alzheimer, donc dont celui dont vous venez de parler, qui est le plan 2008-2012.
C'est le troisième.
C'est le troisième et qui était effectivement le plus efficace en termes d'engagement financier, parce que c'est bien sûr, les moyens financiers sont importants, et en termes de structuration donc, et d'organisation, donc vous l'avez dit, hein, de structures de répit, d'organisation aussi d'accueil, parce que les MAIA dont vous avez parlé permettent de gérer des cas qui relèvent également parfois... pas uniquement du médical, mais du social.
Hein,
et trouver des solutions qui sont vraiment importantes hein, pour placer le malade dans des circonstances qui sont parfois extrêmement difficiles. Donc ce plan Alzheimer a apporté un vrai plus. Actuellement, nous avons un plan qui va venir, le plan des maladies neurodégénératives, puisqu'il associe Parkinson et la sclérose en plaques.
Oui.
Donc ce plan a été annoncé. Nous, ce que nous voudrions, c'est que le rôle de l'aidant soit reconnu, parce que l'aidant a un rôle majeur et c'est lui qui prend en fin de compte en charge le malade
hein, sûr,
avec des éléments de solidarité nationale mais parfois qui ne sont pas suffisants parce que le reste à charge est quand même très important.
Il faut aller plus loin aujourd'hui.
Il faut aller plus loin et derrière donc, ce plan neurodégénératif, donc, nos craintes c'est effectivement que les moyens financiers ne soient pas suffisants pour assurer donc, déjà une reconnaissance du rôle de l'aidant et puis aller encore un peu plus loin dans les accueils de jour, dans toutes ces structures. Entre autres, même en EHPAD, hein, qui permettent d'avoir un vrai accompagnement thérapeutique du malade.
Ça, c'est vraiment le message que vous vouliez faire passer aujourd'hui au nom de l'association.
Absolument.
Je vais passer maintenant à des questions plus personnelles, si vous le permettez, Gérard. Pourquoi, tout simplement, vous avez choisi de vous engager dans cette association et pas une autre ?
L'association France Alzheimer, je l'ai choisie pour une raison majeure, c'est que ma maman est atteinte. Et donc... d'une certaine façon, en prenant du recul, je n'ai pas eu accès aux formations telles qu'on les dispense, je n'ai pas eu accès à un certain nombre donc, de services tels qu'on les propose et qui m'ont pénalisé dans la relation que je peux avoir avec ma mère, dans la compréhension de la maladie. Donc, avec du recul, j'ai perdu du temps, j'ai appris par moi-même et en échangeant avec d'autres, mais j'aurais été certainement beaucoup plus efficace, beaucoup plus conciliant, beaucoup plus calme peut-être si j'avais eu cette connaissance de la maladie et cette faculté d'adapter mon comportement de manière pertinente.
C'est important d'avoir un témoignage aussi comme ça.
Alors c'est vrai que c'est important, c'est pour ça que l'engagement est pour moi est très fort parce que d'une
part... Comment vous le définiriez-vous l'engagement associatif ? C'est la question que je pose à tous mes invités.
C'est un engagement militant.
Militant.
Hein, donc militant, on apporte du soutien, on milite pour plus de solidarité. C'est un engagement aussi qui pour moi représente de l'action, un retour sur action qui est... très 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 fort.
Être militant, être utile, on retiendra ces mots Gérard. Le temps d'un jingle, ce sont Migone hein, qui prennent la parole et ils ont quelques questions à vous poser.
répéter la question.
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
C'est Marie-Ève, je crois, qui a une question à vous poser, Gérard.
Oui, alors je suis allée sur votre site internet et puis j'ai lu le témoignage de Marie-Madeleine et puis il y a une phrase qui m'a marquée. C'était celle-ci. Il lui reste le sourire, la mémoire des gestes et particulièrement ceux de la vie affective et ceux de la musique. Alors le sourire, la mémoire des gestes de la vie affective et de la musique, pour moi, sont trois dimensions essentielles de l'existence. Et est-ce que ce ne serait pas beau si on avait tous un peu ces symptômes-là?
Alors, c'est certain, enfin, je connais Marie-Madeleine personnellement, donc c'est vrai qu'elle est mutique, ouais. Donc elle ne comprend pas réellement ce qu'on lui dit, donc je pense que l'effort qu'a fait son mari, c'est un effort de comprendre les capacités qui lui restaient et d'essayer de les mettre en résonance dans son accompagnement quotidien. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup des malades. On apprend énormément parce qu'ils perdent une certaine forme d'identité et de, oui. Et de défense. Ils sont sans défense. Donc, ils se livrent entièrement et ils sont dans le domaine de l'émotion, donc très fortement. Et c'est une vraie richesse quand on comprend comment communiquer, même si bon, leur perte d'identité fait qu'on n'a pas une relation avec la même personne. C'est vrai, vous avez raison.
Mathilde, est-ce que tu as une question à poser à Gérard?
Alors moi, ça m'a mise un peu mal à l'aise de me dire qu'il fallait que je prépare une question décalée sur ce sujet, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on traite souvent cette maladie qui est assez connue, mais peut-être méconnue du grand public. On la traite souvent sur le ton presque de l'humour, parce qu'évidemment, une personne qui perd un peu certaines capacités va... Ça va engendrer des situations un peu cocasses. Et moi, j'ai déjà entendu des gens qui travaillent au quotidien, par exemple dans des maisons de retraite, des personnels de santé, qui vont raconter des anecdotes. Tiens, tel malade a fait ça et c'était drôle. Est-ce que vous pensez que ça découle d'une mauvaise connaissance de la maladie? Ou est-ce que vous pensez que c'est aussi une façon de gérer cette tragédie?
Alors, la maladie, c'est un fardeau porté par, bien sûr, le malade, hein, parce que le malade peut, surtout en début de maladie, a conscience de sa maladie, puis son entourage qui s'en occupe. Donc, c'est quelque chose de très lourd, et c'est une longue descente inéluctable, hein, c'est une rivière sans retour. Donc, au travers également des médicaments dont on sait qu'ils ne peuvent pas guérir. Alors, derrière, il faut sortir de temps en temps hein, de ce climat lourd et pesant. Je pense que c'est une des missions de l'association, c'est de faire en sorte qu'on puisse sortir de son isolement. Et puis l'humour fait partie des malades. Hein. L'humour, on a beaucoup de cas donc, qui remontent, comme quoi un malade est encore capable d'humour. Hein. Je pourrais vous citer l'exemple d'une dame que je connais qui a été diagnostiquée. Et on m'a raconté que quand le médecin lui avait appris, elle avait dit « Ah docteur, je vais m'empresser de l'oublier ». Il y a des phrases comme ça, je pense que ça allège et ça permet de continuer à vivre avec le malade qu'on maintient dans la vie et également de vivre sa vie soi-même quand on est aidant.
Ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup vraiment Gérard d'être venu nous parler de l'association France Alzheimer qui est donc pour la Fédération Nationale faite en 2015 ses 30 ans. Cette interview je la dédie à ma grand-mère. J'ai pas l'habitude de dédier mes émissions. Ni de vous raconter ma vie, chers auditeurs, promis, je le fais plus. La dernière dédicace hein, que j'ai faite, c'était lors du 6e numéro de présidence, qui était justement consacré à la question de la dépendance. C'était fin novembre 2011. Il est disponible sur notre site, dans les archives. La boucle est bouclée.
Je t'ai manqué. Pourquoi tu me déchires?
Alors du rire aux larmes, hein, c'est ça, la radio Elégone. Merci à ENS Média pour son aide, et notamment Léo et Xavier. Merci à Nicolas qui les aidait pour la partie association, et à Clément pour les parties actu et sortie. Je vous donne rendez-vous le mercredi 11 février pour le 11e numéro d'Egone, c'est assez logique. En fin d'émission, hein, on recevra l'association Médecins du Monde. D'ici là, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des gonneries.